Donc aujourd'hui, nous accueillons M. Hubert Flocard, qui est directeur de recherche au CNRS. Il a été en 79-80 visiting fellow au laboratoire de Berkeley et de Livermore. Il a été en 83-84 visiting professor au MIT de Cambridge, donc. Il a été ensuite, pendant 12 ans, de 84 à 96, professeur à l'École Polytechnique de Paris. Et de 95 à 99, il a été directeur de l'Institut français pour la physique nucléaire et particulière à l'IN2P3, unité du CNRS.
Bien. Je vous remercie. Et je vais... Ah non, il faut quand même que j'enlève ça. C'est ça. Bien. Alors, vous voyez, j'ai légèrement démarqué le titre. Non pas que je ne vais pas parler de ce qui était dans le titre initial, jusqu'où peut-on produire des noyaux atomiques. J'ai introduit un adjectif différent, qui est l'adjectif exotique, qui est utilisé dans notre communauté de façon constante pour exprimer le fait que ce qui nous intéresse, ce sont des noyaux que nous n'avons pas autour de nous, des noyaux qui sont loin de nous. Alors, ils peuvent être loin de nous parce que, comme vous allez voir, ils ne sont pas faciles à faire, ils nous ont tendance à nous échapper, mais ils sont aussi loin de nous parce que ce sont ceux que l'on trouvera, par exemple, dans les systèmes astrophysiques ou dans les étoiles. Alors, mon exposé d'aujourd'hui, je l'ai composé en trois parties. La première, c'est je vais vous indiquer ce que sont des noyaux stables ou instables, et donc où se trouvent nos noyaux exotiques. Et ensuite, je décrirai un peu le type de physique qui est accessible lorsque l'on étudie ces noyaux. Et dans une dernière partie, je passerai à la question de la production de ces noyaux exotiques, et donc les méthodes, rapidement, et les réalisations et les projets de la communauté. Alors, un exposé de physique nucléaire, en fait, peut difficilement échapper à la mention de ce que la radioactivité a... le noyau est entré dans le domaine de la physique il y a à peu près 100 ans. Nous venons juste de fêter ce centenaire. Et donc, je pense que ce n'est pas inutile d'indiquer donc, que c'est un champ de physique relativement récent. Alors, plaçons un peu le noyau. Alors, sur ce transparent, vous voyez deux échelles, une échelle de longueur, une échelle d'énergie, que vous avez peut-être vue plusieurs fois. Et dans cette échelle de longueur, où se place le noyau, donc il se placera en dessous des systèmes microscopiques qui seront, mettons, des systèmes biologiques comme des virus. Vous descendez d'un facteur 1000 à 10 000 et vous trouverez l'atome et son cortège électronique, vaguement symbolisé par ces tout petits points bleus qui orbitent, et autour du noyau, justement. Et si on descend de 4 ordres de grandeur, donc 10 000 fois plus petit, on va trouver, donc à une échelle qui est le 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire le millionième de millionième de millimètre, on va trouver le noyau, et c'est le sujet de notre étude. Et si on descend plus bas, on trouvera à l'intérieur du noyau les particules dont on vous a parlé, je crois, hier, et en particulier à l'intérieur de ces particules, les quarks. Maintenant, regardons un peu les outils pour un peu nous positionner en termes de taille d'outils. Vous voyez que pour étudier un objet microscopique, on va utiliser des instruments comme un microscope électronique. La physique du noyau se conduira, elle, avec des instruments comme un cyclotron. Alors, c'est à peine visible ici, mais vous voyez deux personnes qui sont là, qui se tiennent debout. Ouais. On les voit à peine, mais disons ici, ça c'est une rambarde qui est à peu près la hauteur d'une personne, et donc ça vous fixe la taille de cet objet qui est déjà assez grand, mais qui n'est pas gigantesque. Et évidemment, quand on veut étudier des particules plus petites, pour des raisons de fabrication d'énergie, parce qu'il y a une échelle d'énergie qui va à l'envers de l'échelle des distances, on est obligé de monter à des machines beaucoup plus importantes qui peuvent avoir la taille d'un département. Mais la physique nucléaire va travailler avec des outils, en tout cas actuellement travaille avec des outils de ce type. Alors, les noyaux, Par quoi sont-ils caractérisés? Ils sont caractérisés par deux... Ils ont deux nombres qui peuvent servir à les caractériser tout d'abord. Le premier est le nombre de protons. Ce nombre, dans les noyaux, on trouvera des nucléons qui seront soit des protons, soit des neutrons. Et le nombre de neutrons détermine le nom du noyau et sa charge. Et le nom du noyau, ça nous renvoie aux éléments et aux éléments chimiques, à la chimie. Donc on démarre avec l'hydrogène et puis après on monte l'hydrogène, l'hélium, lithium, beryllium, etc. Et ceci, c'est bien sûr la table de Mendeleïev qui a été prévue au siècle dernier par un chimiste. Et cette table est quand même légèrement différente des tables que vous pouvez avoir vues jusqu'à présent, parce que vous voyez, il y a des cases qui ont été rajoutées ici, on les a d'ailleurs mises un peu plus grandes, avec des éléments nouveaux qui sont apparus, avec des noms comme le dubnium, le cyborgium, le borium, le hassium, le metnerium. En plus, maintenant, vous voyez, il y a trois cases qui sont déjà là, prévues, et ces cases n'ont pas encore de nom, mais les noyaux ont été vus, les éléments ont été vus. Et puis, récemment, cette année, deux laboratoires ont indiqué qu'ils avaient peut-être vu les cases correspondant à 114, 116 et 118. Donc voilà pour les protons, et je reviendrai sur ce point-là. Alors, un autre... donc. Les protons pour caractériser les noyaux. Une autre caractéristique, c'est bien sûr le nombre de neutrons. Et ça nous renvoie, les protons donnent les éléments, les neutrons vont nous introduire la notion d'isotope. Et les isotopes, ici j'ai choisi l'exemple des isotopes de l'élément le plus simple, l'hydrogène. L'hydrogène a normalement un proton, mais il possède deux isotopes connus qui sont le deutérium, enfin l'hydrogène H2 et le tritium, hydrogène H3. Et dans ce cas-là, dans le cas du deutérium, il y aura un neutron de plus, symbolisé par cette boule bleue. Et puis dans le cas du tritium ou de l'hydrogène 3, il y aura deux neutrons de plus. Donc le chiffre indique le nombre total de ce qu'on appelle les nucléons. Et autour va toujours tourner un seul électron puisqu'il n'y a qu'une seule charge. Alors cette notion d'isotope est générale. Il n'y a guère que dans le cas de l'hydrogène qu'on a introduit des noms spéciaux. Partout ailleurs, on se contente de donner le nom de l'élément et d'indiquer la masse de l'isotope correspondante, ce qui permet par différence de trouver le nombre de neutrons. Alors, vous voyez, ici, vous avez une représentation du noyau qui est ce que j'appelle une représentation en boule de billard ou une représentation en framboise, en particulier quand elle évolue dans cette direction-là. Vous voyez où ça commence ici, c'est une représentation de trois désintégrations. Cette représentation-là, qu'on trouve souvent dans les livres de vulgarisation, a des mérites. Elle a le mérite de montrer que le noyau est fait de deux sortes de particules, et elle a aussi le mérite de montrer que le noyau est un système compact avec une surface très bien définie. Elle a par contre un inconvénient, c'est qu'elle cache le fait que le noyau n'est pas un système classique. Ici, vous avez l'impression de voir des boules de billard ou des grains de mur associés ensemble. Or, en fait, le noyau est un système qui est régi par la mécanique quantique. Et un des points essentiels de la mécanique quantique, c'est que quelque chose n'existe que si c'est observable. Or, on pourrait se poser la question, que faudrait-il faire pour observer de cette façon-là les neutrons et les protons qui se trouvent à l'intérieur du noyau? On se rend compte qu'à ce moment-là, il faudrait les éclairer avec une lumière tellement intense que le noyau se désintégrerait instantanément. Donc, en fait, la description qui est là cache vraiment le fait que le noyau est un système quantique, et c'est pour ça que je vais être amené à introduire une autre description un peu plus tard. Alors maintenant, où sont les noyaux et comment les regarde-t-on? Alors vous voyez les noyaux, ça passe à peu près, sauf les couleurs. Les noyaux, on les trouve sur une carte qui porte, mettons, typiquement en abscisse, on mettra le nombre de neutrons entre 0 et 160. Et pour les protons, le nombre Z, c'est conventionnel, qui va entre 0 et 110. Et dans ce plan, on doit trouver tous les noyaux et tous les isotopes en particulier. Alors vous voyez apparaître des cases noires ici. Chaque carré représente un noyau potentiel. Les cases noires, qui sont ici représentent les noyaux stables. Si vous comptiez le nombre de ces cases, c'est-à-dire le nombre de noyaux que nous avons autour de nous, ces noyaux, il y en a à peu près de l'ordre de 250 à 265, allez, on va dire. Et donc un nombre de l'ordre donc, de 250-300. Et puis vous voyez apparaître sur ce diagramme deux lignes. Une ligne qui est rouge, enfin, sur mon transparent, qui est la ligne supérieure, et une ligne bleue qui en serre comme ça, qui se trouve de part et d'autre, et puis des petites cases qui sont marquées. Alors que représentent ces lignes, que représentent ces cases? Alors ces lignes indiquent les limites qu'on appelle drip line en anglais, pour ligne d'écoulement, qui représente les lignes au-delà desquelles, en disant en dessous de laquelle ici ou en dessous de laquelle, en dessus de celle-ci, on ne pourra plus trouver de noyau. Aucun noyau n'existe au sens de ce que je vais appeler l'interaction forte. Ensuite, les carrés qui sont là indiquent des noyaux qui ont été vus. Pour certains d'entre eux, on a des propriétés, on sait qu'ils existent. On sait qu'ils existent, des fois on a des informations sur leur énergie, choses comme ceci, mais on a eu des informations très complètes, donc ces noyaux ne sont pas stables, sinon ils seraient en noir, ils ont été vus. Et la situation actuelle, c'est que donc il y a de l'ordre de 250 noyaux stables, 2000 noyaux à peu près ont été vus, et on estime que le nombre de noyaux qui devraient être visibles, de ces noyaux exotiques que l'on va rechercher, doit être de l'ordre de 8000. Et l'enjeu des recherches dont je vais parler maintenant, c'est justement de produire et d'étudier l'ensemble de ces noyaux. Alors, pour comprendre pourquoi les noyaux s'organisent ainsi dans le plan NZ, dans le plan donc neutron-proton, j'ai essayé un petit modèle avec une espèce de ménagerie. Et finalement, j'avais le choix de l'animal. Donc, comme animal, j'ai choisi des puces parce que la physique nucléaire, c'est un peu urticant de nos jours. Et donc, la question, c'est comment peut-on comprendre la structure que je vous ai présentée sur le transparent précédent. Et donc, ce que je vais essayer de poser comme question, c'est, étant donné un noyau, comment je vais pouvoir faire un noyau plus lourd? Comment fabriquer un noyau plus lourd? Et je vais étudier trois types de chemins. L'un qui consiste, vous voyez, à se déplacer suivant cette ligne qui, moi, apparaît rouge, qui est plutôt, enfin celle-ci, la ligne horizontale, on va dire, et qui m'amène vers la ligne d'écoulement, la drip line neutron, la ligne d'écoulement neutron. Aussi la ligne bleue qui m'amène vers la ligne d'écoulement proton, et puis une ligne verte qui est ce que j'appelle la vallée de stabilité parce qu'elle suit l'ensemble de tous les noyaux stables et qui, elle, est sur la première bisectrice dans le plan NZ. Alors, imaginons, partons de notre noyau stable et la représentation que je vais vous faire. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas beaucoup la représentation en framboise. La représentation peut vous apparaître plus caricaturale, mais en pratique, elle contient beaucoup d'informations qui relèvent de la mécanique quantique. C'est-à-dire, en fait, c'est une description qui est beaucoup plus quantique que la précédente. Et en fait, elle consiste à dire que le noyau, la petite ménagerie, je la place dans un puits, dans un double puits. Vous voyez, il y a un puits pour les protons, un puits pour les neutrons. Et dans ce puits, je place des échelles. Et les puces savantes dont je dispose vont se placer sur les barreaux de l'échelle. Alors là, un principe dû à un physicien suisse qui s'appelle Pauli a expliqué qu'en mécanique quantique, des particules comme le proton et le neutron ne pourraient pas se mettre à plus de 2 sur un barreau d'échelle. Donc voilà, j'ai donc rempli les barreaux d'échelle comme ceci, mettons avec mon premier, le noyau de référence. Et voyez, la deuxième règle que je vais dire, c'est que tant que les puces se trouveront plus bas que le niveau que la surface, elles ne pourront pas s'échapper du puits. Et maintenant, je vais étudier ce qui se passe lorsque on considère que toute cette ménagerie est réglée par ce qu'on appelle l'interaction forte. Alors, je vous rappelle que la nature, actuellement, on reconnaît l'existence de 4 types d'interactions. L'interaction gravitationnelle, qui ne joue aucun rôle dans les noyaux, et 3 autres interactions qui vont apparaître dans ma présentation. L'interaction forte, qui est la première à regarder, parce que justement elle est forte, et qui va déterminer les caractéristiques principales. Puis ensuite, une deuxième interaction qui joue un rôle plus important et qui, elle, est bien connue de vous, c'est l'interaction électromagnétique, et en particulier dans le cas des noyaux électrostatiques. Et puis finalement, il y a une troisième type d'interaction qui va déterminer la stabilité des noyaux, qui est l'interaction faible. Alors, l'interaction, commençons à discuter ce qui se passe quand on essaye d'augmenter la masse, mettons par exemple en bougeant sur la verticale, on veut ajouter deux protons. Alors là, si on a l'interaction forte, on constate la chose suivante, quand on étudie la théorie de l'interaction forte dans les noyaux, que d'ajouter, de demander à avoir deux puces protons de plus, ça a un effet, c'est que, vous voyez, ça creuse le puits des neutrons, ce qui est un peu paradoxal, on rajoute des protons, mais c'est de ce côté-là que ça s'enfonce, le puits des protons, des neutrons s'enfonce, et donc l'échelle des neutrons s'enfonce, et comme le nombre de neutrons n'a pas changé, si j'ose dire, ces puces sont encore plus emprisonnées que précédemment. Par contre, le puits des protons, lui, ne change pas quand on ajoute des protons, et donc, finalement, les deux protons que je mets, en vertu du principe que j'ai indiqué, du principe de Pauli, doivent se placer sur le barreau de l'échelle supérieure, et donc ils viennent se mettre ici. Et que se passe-t-il si j'ajoute encore un proton ? Eh bien, le phénomène se poursuit, c'est-à-dire le puits de neutrons se creuse, rien ne change vraiment pour les neutrons, mais pour les protons, rien ne change non plus, le puits ne se creuse pas, et donc le proton que l'on met ensuite va se placer sur ce barreau de l'échelle. Et à ce moment-là, on aura atteint la drip line, puisque le proton ou la puce va découvrir qu'il est beaucoup plus intéressant pour elle de s'en aller, de s'écouler hors du noyau. Et en fait, chaque fois que vous allez essayer de mettre une puce proton de plus, elle va s'en aller. Alors, l'interaction forte a la caractéristique d'être symétrique, de jouer les neutrons et les protons jouent le même rôle dans cette interaction. Donc, si j'essaye d'aller du côté des neutrons, eh bien, le phénomène symétrique va se passer, c'est-à-dire si j'ajoute des neutrons, le puits des protons va se creuser, et puis le puits des neutrons restera pareil, je vais remplir l'échelle, et à un moment donné, eh bien, je vais être obligé de mettre un neutron sur un barreau de l'échelle qui va dépasser le bord, j'aurai atteint la drip line neutron, donc la ligne d'écoulement neutron. Par contre, voyons ce qui se passe si on se déplace le long de la vallée de stabilité. Alors là, par exemple, j'ajoute deux protons et deux neutrons. Eh bien, les deux protons creusent le puits des neutrons, les deux neutrons creusent le puits des protons, les échelles s'enfoncent des deux côtés, je mets les deux particules. Puis j'ajoute deux protons et deux neutrons, le phénomène se poursuit, et donc ainsi, en se déplaçant dans cette direction-là, on obtient toujours des noyaux stables. Alors, en pratique, si la nature ne contenait que l'interaction forte, ce qui se passerait, c'est que nous aurions des noyaux aussi lourds que l'on voudrait. On verrait pas les éléments s'arrêter, des noyaux stables s'arrêter à la masse 100, ou comme actuellement, enfin, ça s'arrête à l'uranium, qui est 90. On irait jusqu'à 1000, 10 000, on aurait des étoiles faites de neutrons et de protons. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, il existe la deuxième interaction qui est l'interaction électrostatique. Les protons sont chargés, et ils sont chargés de la même manière, positivement, donc il y a une répulsion qui se place entre eux, donc les puces protons, elles peuvent se supporter quand il n'y en a pas beaucoup, mais au bout d'un moment, elles ne peuvent plus se supporter, elles se repoussent, elles ont tendance à faire éclater le système. Alors pendant un certain temps, le noyau essaye de réagir contre ça, et il rajoute des neutrons, c'est-à-dire, en gros, pour calmer les protons, on met des neutrons, et vous voyez que c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire au début, on part suivant la première bisectrice, et puis graduellement, la vallée de stabilité s'éloigne et on rajoutera des neutrons de façon à obtenir des noyaux stables. Mais en faisant ce processus, eh bien, en mettant trop de neutrons, on arrive dans cette situation et au bout d'un moment, eh bien, on n'arrive plus à fabriquer des noyaux. Donc l'existence de l'interaction forte et de l'interaction électromagnétique a deux effets. Les noyaux se trouvent, noyaux stables ou les noyaux existants se trouvent à peu près tous canalisés dans une certaine zone qui est compris entre les deux lignes d'écoulement et il y a une limite supérieure qui apparaît. Alors maintenant, pourquoi tous ces noyaux, et ceux-là en particulier, sont instables ? Eh bien, la raison tient à la troisième force, qui est la force faible, l'interaction faible. Cette interaction faible, en gros, si je devais vous le dire, elle autorise la mutation des puces sous certaines conditions. Et en gros, la mutation dit, si une puce qui est ici repère que de l'autre côté, il y a un barreau d'échelle qui est plus favorable, eh bien, elle effectuera une mutation, elle ira se mettre sur ce barreau d'échelle. Et vous voyez tout de suite ce qui va se passer. La puce qui est bleue ici va muter, devenir une puce rouge, et du coup, je vais me retrouver dans un système avec 5 bleus et 5 rouges, et donc je vais revenir sur la première bisectrice, et je vais fabriquer ainsi un noyau stable. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas particulier, la désintégration bêta plus, et puis si elle a lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire un neutron devient un proton, ça sera la désintégration bêta moins. Alors pourquoi quand même les physiciens considèrent que tous ces noyaux, donc ces désintégrations, ramènent sans arrêt des noyaux instables, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans cette zone, les ramènent vers le fond de la vallée de stabilité. Pourquoi les physiciens considèrent-ils quand même que ce sont des noyaux observables? La raison tient essentiellement à des échelles de temps. Ce que j'ai indiqué ici, c'est le temps auquel... quand l'interaction forte réagit, détermine la dynamique des noyaux, l'échelle de temps typique, ce qui correspondrait pour nous à une seconde de la vie humaine, c'est 10⁻²⁴ secondes, c'est-à-dire un millionième de millionième de millionième de millionième de seconde. Et ça, c'est pour un noyau, c'est une seconde de sa vie. Par contre, l'interaction faible, parce qu'elle est faible, est beaucoup moins efficace et un processus de désintégration bêta plus ou bêta moins va prendre de l'ordre de 1 seconde à 1 microseconde. Alors pour un homme, pour un expérimentateur, ça peut paraître extrêmement court, mais si vous ramenez ça à la seconde de vie du noyau, vous voyez que ça correspond à 100 000 millions d'années. Donc ça veut dire que, vu du point de vue, non plus regardé avec les yeux de l'homme et de l'expérimentateur, mais regardé avec les contraintes qui déterminent la dynamique des noyaux, eh bien en fait, vivre 1 microseconde, c'est quasiment vivre l'éternité. Et donc, tous les noyaux qui se trouvent entre ces deux lignes, la rouge et la bleue, sont ceux qui, du point de vue de l'interaction forte et de l'interaction électromagnétique, vivent essentiellement l'éternité, même si, pour un expérimentateur, il découvrira qu'en pratique, dans ses appareillages, ils vivent de l'ordre de la microseconde. Et donc, les physiciens considèrent que tous ces noyaux, entre ces deux lignes, sont des noyaux qui existent. Bien. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ces noyaux, où sont-ils? Regardons un peu à quoi ils peuvent servir, pourquoi nous sommes intéressés à les mesurer. Alors je vais passer en revue très rapidement les différentes utilisations possibles de ces noyaux exotiques, de ces noyaux radioactifs essentiellement, instables. Bon, ici j'ai juste un transparent pour illustrer le fait qu'ils jouent un rôle dans le domaine des applications médicales. Ici j'ai choisi un transparent qui illustre l'imagerie médicale avec une caméra positron, c'est-à-dire essentiellement on observe la désintégration bêta plus et ça permet de faire des études in vivo sur des hommes et aussi sur des mammifères. Un autre aspect, bien sûr, qui, je pense, va vous être présenté dans une autre conférence, c'est l'utilisation dans le domaine de la thérapie, aussi bien dans la gamma-thérapie que dans l'alpha-thérapie. Mais comme je pense que ce point sera évoqué par d'autres personnes plus compétentes, je passe à une autre application. Une autre application, c'est ce qu'on appelle les expériences de canalisation ou channeling. Ces expériences expériences qui sont utiles dans le domaine des semi-conducteurs. Vous savez que les semi-conducteurs, silicium, germanium, jouent évidemment un rôle important dans les transistors, et ils jouent un rôle d'autant plus important qu'ils sont ce qu'on appelle dopés, c'est-à-dire on a placé des petites impuretés de façon extrêmement spécifique à l'intérieur du cristal de silicium et de germanium. Et la question est de contrôler, comment peut-on contrôler l'emplacement de ces impuretés où on en mettra extrêmement peu, c'est-à-dire ça descend en dessous des limites de la dosimétrie chimique. Eh bien, une des manières de le faire, ça consiste à placer de façon spécifique dans le cristal des atomes radioactifs et d'observer leur décroissance. Et alors, si par exemple ils émettent des électrons ou des particules alpha, s'ils sont instables, eh bien, ces électrons, parce qu'ils sont chargés, vont être canalisés par le cristal et la figure de diffraction qui va sortir permet de remonter exactement à la position de ces éléments radioactifs et donc de comprendre le problème du dopage. Récemment aussi, une application qui est survenue a été dans le domaine des supraconducteurs à haute température, puisque bon, ces supraconducteurs ont une structure cristalline complexe qui implique des plans de cuivre, comme ça, qui sont les plans supraconducteurs. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les températures de criticité de la supraconductivité dépendaient énormément de la position de plan dans lequel se trouve le mercure, de plan chimique, donc c'est une molécule. Et se trouvent des atomes de mercure. En mettant ici à ces endroits critiques des atomes radioactifs et en les observant, on est capable de faire une corrélation entre les propriétés de supraconductivité et les propriétés de la constitution chimique de ces plans. Donc il y a toute une utilisation dans le domaine de la matière condensée. Alors maintenant, une autre utilisation, c'est une autre application hors du domaine de la physique nucléaire, c'est dans le domaine de l'abondance des éléments. L'abondance des éléments, ici c'est une figure où à nouveau, comme le rouge passe pas, on voit pas ici, disons, vous trouvez différents systèmes célestes, un gaz d'hydrogène, le Soleil, notre Soleil, la Terre, et ici un micrométéorite, enfin un météorite, je m'excuse, qui s'appelle Allende, qui fait de l'ordre d'une dizaine de mètres. Et alors les météorites ont une grande utilité parce qu'ils nous renseignent sur la composition globale de l'univers et dans certains cas, en regardant des propriétés des micro-météorites, même sur des événements spécifiques qui ont lieu dans la vie de l'univers. Et ce qui s'avère, c'est que ces événements astrophysiques ont une grande importance pour comprendre l'existence des noyaux que nous trouvons sur Terre. En effet, il apparaît, si les étoiles étaient toutes comme notre Soleil, on ne trouverait quasiment jamais d'éléments beaucoup plus lourds que le fer. Pour arriver à avoir des éléments qui se trouvent à aller vers le plomb, mercure, uranium, on est obligé... les astrophysiciens ont montré que la nature utilise des phénomènes extrêmement explosifs, dont un exemple est la supernova 87A, et ces événements explosifs fabriquent à grande vitesse, des temps de l'ordre d'une seconde, ils se promènent à grande vitesse, l'étoile va se promener dans ce plan et va fabriquer des noyaux en suivant, voyez, ce chemin que j'indique ici. Et vous remarquerez que ce chemin passe dans la zone des noyaux exotiques et s'éloigne complètement de la zone des noyaux stables. Donc la compréhension de ce processus astrophysique va réclamer une connaissance de la physique nucléaire de ces noyaux-là, et ça, c'est aussi un des enjeux. Un autre phénomène astrophysique qui a été observé récemment est qu'il existait énormément d'étoiles à neutrons qui fonctionnaient en système binaire, et dans ces étoiles-là, d'autres phénomènes de physique nucléaire ont lieu qui, eux, se déroulent, vous voyez, sur ce chemin qui apparaît, oui, et qui s'appelle le processus RP. Ici, le R fait référence à rapide, car dans les deux cas, il s'agit de phénomènes relativement explosifs. Et donc, la compréhension de la physique nucléaire est une des clés de la compréhension de l'astrophysique. Et un exemple que je veux vous montrer ici, c'est un exemple qui vous montre une situation telle qu'elle existait avant 1993. En observant la quantité de calcium dans les météorites, on a constaté que l'isotope 46 du calcium, indiqué ici, avait une concentration beaucoup plus faible que l'isotope 48, plus lourd. Il faut savoir que la vallée de stabilité passe à peu près par ici, donc on s'éloigne. Et donc, il y avait un côté paradoxal à trouver cet élément surabondant par rapport à celui-ci. Et c'était tellement paradoxal que quand on faisait tourner les codes associés à la description des processus astrophysiques, avec la connaissance rudimentaire de cette zone de noyaux exotiques que l'on avait à l'époque, eh bien, on arrivait à prédire exactement l'effet inverse. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au grand laboratoire national à Yonlourd de Caen, qui étudie déjà ce type de physique depuis plus de presque 20 ans, on a entamé une série complète de mesures qui a permis de compléter l'image dans cette région, de donner non seulement une connaissance complète, une cartographie, je dirais, mais en plus de donner des informations chiffrées sur les durées de vie de tous ces éléments. Et grâce à ça, en revenant dans les mêmes calculs astrophysiques, on est arrivé à reproduire la situation expérimentale. Et donc, on a bien montré dans ce cas particulier que la description d'un phénomène physique au niveau nucléaire était cruciale pour comprendre des données de nature astrophysique. Alors maintenant, il n'y a pas que pour faire plaisir aux autres que les physiciens nucléaires s'intéressent aux noyaux exotiques. Ils s'intéressent pour toute une série de phénomènes qui sont dessinés ici dans des bulles, et je ne vais évidemment pas tous les passer en revue. Je vais me concentrer sur deux d'entre eux. L'un, ce sont les noyaux à l'eau, et l'autre, ce sont les noyaux superlourds, donc en gros les deux extrêmes de cette bande. On peut imaginer que si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors les noyaux à l'eau, vous voyez ici la couverture d'un journal anglais de vulgarisation consacré aux noyaux à l'eau, enfin il faut aller jusqu'au bas de la page, Unlocking Nuclear Secrets, elle représente trois anneaux enlacés parce que ces noyaux à l'eau correspondent à ce qu'on appelle des systèmes borroméens. Alors, borroméen, ça fait référence à trois familles nobles du Moyen-Âge qui vivaient certainement sur les îles Borromée, sur le lac de Garde, et qui avaient adopté ce symbole de trois anneaux enlacés de cette façon très particulière, parce que si vous coupez un des anneaux, les deux autres se séparent. Et donc, la symbolique de ça, c'était de montrer qu'elles ne pouvaient exister qu'en étant toutes les trois unies. Si vous le transposez ça à des systèmes physiques, ça veut dire que vous pouvez décrire des systèmes physiques tels que si vous essayez de mettre deux ensemble, deux composantes ensemble, le système est instable, et le système ne devient stable que si on met les trois ensemble. Et les noyaux à l'eau relèvent exactement de cette problématique. Puisque, voilà, je reviens ici à un petit modèle donc en boule de billard. Et ici, le premier exemple de noyau a été celui des noyaux de lithium. Le noyau de lithium, trois protons, existe de façon stable vers le lithium 6, le lithium 7, et puis des isotopes instables sont connus, le lithium 8, le lithium 9, et on savait depuis très longtemps que le lithium 10 n'existe pas. Le lithium 10 est instable. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que le lithium 11 était stable, mais il était stable d'une façon extrêmement originale, c'est-à-dire que pour arriver à les deux neutrons supplémentaires, au lieu de venir se coller au reste du noyau, comme c'était le cas dans presque tous les noyaux, se diffusait en un halo, de telle sorte que ce noyau qui n'a que 11 nucléons se trouve être aussi gros que le plus lourd des noyaux, que l'uranium, par exemple. Il occupe autant de place. Mais évidemment, il occupe autant de place en ayant ici de la matière extrêmement diffuse. Et donc, ces noyaux nous permettent d'explorer non seulement la matière nucléaire quand elle existe sous sa forme compacte, mais aussi quand elle existe sous une forme extrêmement diffuse. Et donc, c'est l'accès à un nouvel, en gros, on pourrait dire, à un nouvel état de la matière nucléonique, neutronique dans ce cas particulier, une matière extrêmement peu dense. Et donc, tout ce champ de physique va s'ouvrir avec les noyaux à l'eau, mais qui exige que l'on aille vers des systèmes extrêmement riches en neutrons. Maintenant, si je vais à l'autre bout de l'échelle, je vais vous parler des noyaux superlourds. Les noyaux superlourds, j'ai essayé de les... Ici, vous avez un agrandissement de la carte des éléments, c'est-à-dire ici, vous avez encore le nombre de neutrons, mais on démarre à 110 et on va à 190, le nombre de protons, mais on démarre à 70 et on va à 120, et vous avez une surface, il faut essayer d'imaginer une surface, et en particulier, vous avez des creux ici, un creux là, un creux ici, et puis ça monte comme ça, il y a une surface, et ça, cette surface, elle symbolise la stabilité des systèmes. Et vous voyez ici, par exemple, vous avez un système particulièrement stable, ce système se trouve être le plomb 208, qui, pour cette raison d'ailleurs, a acquis, fait partie de la catégorie des noyaux magiques, donc c'est Z égale 82 et 126 neutrons, et donc ce noyau est extrêmement stable. Et puis quand on ajoute et qu'on rentre dans la zone des actinides, qu'on va vers en gros vers l'uranium, et l'uranium est ici vers 90, on s'enfonce dans cette direction et on perd de la stabilité, et au bout d'un moment, finalement, les noyaux se mettent à se désintégrer. Alors, cette courbe, cette surface montre que, par contre, on pourrait essayer d'explorer cette zone-là, ce qui est la zone du minimum qui est ici, et il y a eu toute une série de travaux qui ont été conduits dans le laboratoire de Darmstadt pour fabriquer ces nouveaux éléments, bien au-delà des éléments connus. Et en 1995, ils avaient planté leur drapeau, qui représentait en gros leur dernier mot à ce moment-là, sur l'élément 112. Donc ils avaient été capables d'aller 12 protons au-delà de l'uranium. Et chacun des points que vous voyez ici correspond à un noyau nouveau qui avait été fait. Et puis, d'une certaine façon, en 1995, la recherche s'était arrêtée parce que dans le laboratoire allemand, ils avaient le sentiment qu'ils ne pourraient plus aller au-delà, car il est extrêmement dur de trouver des combinaisons de noyaux stables qui permettent d'aller plus loin. Et récemment, en utilisant déjà des noyaux instables, cette année, un laboratoire américain et un laboratoire russe ont réussi peut-être à aller au-delà. Donc, c'est une publication qui date de cette année. Donc, c'est la même surface d'énergie, c'est-à-dire ici, vous voyez ici le minimum. Cette fois-ci, c'est des courbes de niveau. Les Allemands étaient arrivés jusqu'ici, jusqu'à cet élément-là, et les Russes et les Américains pensent qu'ils ont observé des noyaux plus lourds. Mais voyez, l'enjeu qui reste, c'est d'aller au-delà, et on sait que pour aller au-delà, on ne pourra le faire qu'en utilisant des faisceaux de noyaux radioactifs, et donc fabriquer des noyaux radioactifs. Alors là, je rappelle juste l'intérêt des noyaux super lourds. Ces noyaux, c'est une nouvelle zone de grande stabilité, c'est-à-dire au-delà de la péninsule des noyaux existants, il pourrait exister une île séparée qui serait l'île des noyaux super lourds. Et dans cette île, on observerait des noyaux avec des propriétés de physique nucléaire et atomique, donc chimique, relativement différents, et en particulier à cause de leur lourdeur, de leur grande charge, des effets quantiques et relativistes. Et en plus, je dirais qu'on aurait, bon, c'est presque anecdotique, mais on aurait réalisé en laboratoire des noyaux, on aurait fabriqué des noyaux qui ne se fabriquent nulle part ailleurs dans l'univers, en tout cas aucun des processus d'astrophysique qui sont décrits actuellement dans nos livres d'astrophysique n'indique comment on pourrait faire de tels noyaux. Alors maintenant que je vous ai indiqué qu'est-ce qu'étaient des noyaux stables ou instables, quel était leur intérêt, je voudrais en venir à la façon de les produire et quels sont les programmes qui sont en cours. Alors il existe deux manières de produire des faisceaux, des noyaux radioactifs, et en particulier des faisceaux, puisque l'idée c'est de fabriquer un faisceau pour qu'on puisse l'amener dans une salle d'expérience et l'étudier. Alors la première méthode utilise des faisceaux, un accélérateur intense qui déjà accélère des noyaux. On fait frapper sur une cible fine ce faisceau intense, et le faisceau est fragmenté, d'où le nom de la méthode, fragmentation du projectile. Et il est fragmenté, et toutes sortes de noyaux, tous les noyaux exotiques sont produits derrière. C'est ce qui est schématisé par ce faisceau qui s'ouvre ici. Puis ensuite, on fait rentrer tout ça dans un système électromagnétique, des aimants, des champs électriques, qui permettent, par combinaison de charges, de trier. Et en gros, ici, donc, vous avez un système de tri, ce qui est schématisé ici, et avec des collimateurs, au bout du compte, on sélectionne le noyau de nombre de neutrons et de nombre de protons fixés, et on l'envoie dans les salles d'expérience pour l'étudier, et c'est ce que souhaitent faire donc les expérimentateurs. Maintenant, une autre méthode qui est différente, vous voyez, cette méthode est extrêmement, la première est très dynamique, la deuxième passe par une phase où on démarre à l'énergie zéro, elle s'appelle ISOL, pour isotope séparation en ligne, online, et elle part à nouveau d'un faisceau accéléré, mais cette fois-ci, on va le tirer dans une cible extrêmement épaisse qui va arrêter tout le faisceau essentiellement. et cette cible est chauffée, mettons, ça sera un gros bloc de plomb ou un bloc de plomb et uranium, mettons, et puis là-dedans vont se produire toutes sortes de réactions, les projectiles vont se fragmenter, mais aussi on va faire fissionner les noyaux qui sont dans la cible, et on va fabriquer ainsi toutes sortes de noyaux exotiques, et comme la cible est chaude, ils vont diffuser hors de la cible, c'est-à-dire c'est un phénomène de simple diffusion thermique, ils vont sortir, et on est obligé à ce moment-là de les faire rentrer dans une source, dans un dispositif qui leur arrache des électrons, puisque vous savez, peut-être qu'on ne sait manipuler des objets microscopiques que lorsqu'ils sont chargés. On ne sait les piloter qu'au moyen de champs électriques et magnétiques. Et donc, on va leur arracher des électrons. Et puis, ils vont continuer. On va les trier. Donc là, ils sortent essentiellement à énergie nulle. Ils sont pas... et on les envoie dans un accélérateur. Et puis, cet accélérateur, après d'autres tris éventuellement, les renvoie dans les salles d'expérience. Donc voilà les deux méthodes qui sont considérées. Alors maintenant, si on regarde un peu l'enjeu et la difficulté pour les ingénieurs et les physiciens, ça c'est la seule formule de mon exposé. Ici, elle vous donne l'intensité du faisceau qui arrive dans les salles d'expérience, I. Et évidemment, plus cette intensité est grande, plus il sera facile de conduire les expériences. Et vous voyez, de l'autre côté, j'ai une multiplication de 7 termes. Et donc, vous vous doutez bien que pour que ce chiffre soit le plus grand possible, il faut que tous les chiffres qui sont de l'autre côté soient aussi le plus grand possible, puisqu'ils sont, enfin, ils sont tous positifs. Alors le premier chiffre, malheureusement, on n'y peut rien, parce que c'est la nature qui nous le donne, c'est ce qu'on appelle la section efficace qui détermine la probabilité pour qu'un événement ait lieu, un événement de fabrication d'un isotope de N et de Z donné. Tous les autres sont des paramètres qui sont contrôlés en principe, autant qu'ils le peuvent, par les ingénieurs et les physiciens. Alors par exemple, l'un, c'est l'intensité du faisceau qui tape soit dans les cibles épaisses ou fines, selon le processus. Donc c'est le flux du faisceau primaire. Il faut le faire le plus intense possible. Le deuxième, c'est le nombre d'atomes qui sont dans la cible. Donc ça veut dire, en principe, on essaye, dans la mesure du possible, d'augmenter l'épaisseur de la cible. Et puis tous les autres sont essentiellement des efficacités. Soit on essaye de l'efficacité pour faire sortir les éléments qui nous intéressent, l'efficacité pour les rendre chargés, l'efficacité pour les accélérer. Et puis bien sûr, un deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'être efficace, il faut le faire vite, puisque ces éléments vont vivre de l'ordre de 1 microseconde. Et donc il faut les battre de vitesse pour qu'ils arrivent dans les salles d'expérience avant d'avoir disparu, puisque les noyaux radioactifs ne vivent qu'un certain temps. Et donc, si vous prenez des exemples où typiquement les ingénieurs se battent et trouvent des chiffres qui ici sont de l'ordre de 10%, vous voyez qu'ici vous avez un facteur 10 puissance moins 4, un 10 millième qui apparaît, et il faudra le battre en fabriquant des accélérateurs initiaux qui seront très intenses. Donc l'enjeu de cette physique, c'est un enjeu aussi de fabriquer des accélérateurs intenses. Alors, je voudrais juste vous indiquez quand même qu'on a déjà commencé ce type de travail. Ici, vous avez un plan du grand accélérateur national à ions lourds qui se trouve à Caen, le GANIL, donc. Et cet accélérateur, jusqu'à récemment, ne consistait qu'en ces deux appareillages qui sont vus par en dessus, deux accélérateurs de type cyclotron, du type de ceux qui apparaissaient dans la première image. Et le faisceau, jusqu'à présent, fabriqué dans cette zone-là, rentrait dans les accélérateurs, il était accéléré, et puis ensuite il était envoyé dans les zones expérimentales qui se trouvent par ici, et où se trouvent, dans chacune de ces casemates, on va trouver des appareillages différents qui permettent d'étudier les noyaux. Dans certains cas, ce seront des expériences de physique de la matière condensée, et on peut même imaginer des expériences de type biologique qui soient faites aussi. Et donc, voilà quelle était la situation. Depuis cette année, c'est-à-dire il y a un système qui est opérationnel au GANIL, qui n'attend que les autorisations des organismes de sûreté pour démarrer, et qui fonctionne suivant le processus ISOL, c'est-à-dire le flux qui sort de ces deux cyclotrons est envoyé dans une cible épaisse qui se trouve ici, et puis de là il est repris envoyé dans ce petit cyclotron et réenvoyé dans les salles d'expérience. Donc ce programme expérimental doit commencer à la fin de cette année. Il a été donc financé par le CNRS et le CEA. Et il devrait mettre le laboratoire français en pointe dans le domaine de cette physique. Une machine concurrente avec des propriétés un peu complémentaires va démarrer cette année aussi au CERN, à Genève. Alors maintenant, ces machines-là représentent ce qu'on appelle des machines de première génération, c'est-à-dire que dans la carte qui est indiquée ici, ces machines vont nous permettre d'aller au-delà, peut-être d'étudier avec une très grande précision les propriétés de ces noyaux qui ont déjà été vus ici, mais ils ne nous permettront certainement pas de suivre, par exemple, cette ligne qui correspondrait au processus astrophysique qui nous intéresserait énormément pour des raisons de compréhension de la nucléosynthèse. Et donc, cette machine, comme le GANIL, va nous permettre certainement d'avancer dans cette physique, mais ne nous permettra certainement pas d'aller jusque aux lignes d'écoulement et donc de couvrir l'intégralité du programme. Alors, pour cette raison, dans le monde, il y a des projets qui se mettent en place et qui sont mis en place en fait dans toutes les grandes zones géographiques scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois zones. Il y a aux USA, une machine est déjà mise en place et déjà programmée pour démarrer à Michigan State University, qui va fonctionner sur le principe du processus de fragmentation. Et la communauté américaine a décidé de construire, dans le cadre de son plan stratégique, de construire une machine qui porte le nom de Rare Iron Accelerator et qui va fonctionner sur l'autre méthode complémentaire dite le processus ISOL. Le Japon est peut-être le pays le plus en avance puisque dans la banlieue de Tokyo, on a mis en place dans le laboratoire du RIKEN une machine de deuxième génération à fragmentation pour laquelle le financement a déjà été obtenu des autorités scientifiques. L'Europe aura une certaine avance au niveau des machines de première génération, mais est toujours en train, puisque le GANIL va démarrer, de même la machine du CERN, et donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui va se passer dès maintenant, dès cette année, enfin dès l'an prochain, en Europe. Pour ce qui concerne la machine de deuxième génération, l'essentiel de l'effort, disons, envisagé pour l'instant est en Allemagne, c'est-à-dire dans la machine de Darmstadt, il est prévu une augmentation, une montée en puissance de cette machine qui devrait la rendre compétitive avec les machines dans les autres régions. À Munich, un processus original que je n'ai pas décrit utilisera le réacteur de recherche de Munich. Et puis, s'est mis en place un projet qui s'appelle Eurisol et qui cherche à définir, de même que comme pour les Américains, une machine de type ISOL. Et ce projet Eurisol est une association de tous les laboratoires européens qui cherchent justement à définir une machine commune pour étudier cette physique. Alors pourquoi une machine commune ? C'est-à-dire pourquoi il est difficile d'envisager qu'une machine de deuxième génération puisse être construite au niveau national. Eh bien, ici, je vous en montre un exemple avec le plan de la machine japonaise. La machine japonaise, comme je vous l'ai dit, est la plus avancée puisque c'est celle qui a déjà des financements. Et vous vous souvenez, au début, dans mon premier transparent, je vous avais indiqué la taille d'un homme par rapport à un cyclotron. Ici, si vous voulez chercher l'homme, c'est cette fourmi qui se trouve ici, là, vous voyez. Ça vous donne la taille de l'homme, maintenant. Donc vous voyez que les installations de deuxième génération sont des installations qui ont changé de dimension. En gros, on a multiplié la dimension générale de l'accélérateur sans atteindre la taille d'un accélérateur de physique des particules et certainement multiplié par un facteur 5 ou 6. Les coûts aussi sont multipliés par un facteur 5 ou 6 et donc on ne peut guère envisager une telle installation qu'au niveau d'une région, enfin d'une zone régionale, l'Europe étant considérée comme une région quand on a un point de vue global. Et donc ici vous avez la machine japonaise qui utilise au départ des cyclotrons et puis qui va les envoyer ensuite dans des anneaux où toutes sortes de manipulations vont être faites sur les ions, sur les noyaux exotiques qui seront ainsi produits. Et donc, voilà un peu la situation. Maintenant, pour conclure, je dirais que ici, vous avez la page web de la collaboration internationale Eurisol. Cette collaboration, elle est patronnée par une association qui groupe tous les laboratoires et toutes les institutions qui étudient la physique nucléaire fondamentale en Europe. Et cette association doit s'attacher à définir, dès l'an prochain, un projet de machine européenne. Et ce projet de machine devrait donc être présenté aux autorités scientifiques dès l'an prochain. Ce même page web vous donne un état complet de la situation des installations existantes aujourd'hui, ainsi que des projets de grande envergure qui existent de par le monde, aussi bien au Japon qu'aux USA et en Europe. Bon, juste un mot pour vous dire que les Français travaillent, ne se contentent pas seulement de travailler sur le papier, pour avancer dans cette direction-là. Ici, par exemple, il y a un travail pour... Et je vous ai dit que ce qui était crucial, c'était de faire des faisceaux de très haute intensité. Eh bien, au CEA Saclay et au CNRS, on travaille à la construction d'accélérateurs haute intensité qui utilisent essentiellement des cavités supraconductrices. Et pour vous donner une idée de la taille de l'objet, des objets dont on parle, vous voyez, un accélérateur qui pourrait être utilisé dans le domaine des ions, des noyaux exotiques. Ici, vous avez une dimension qui apparaît, qui vous dit que ce serait des objets de l'ordre de 250 mètres, c'est-à-dire, c'est bien ce que je vous dis, c'est des objets qui sont importants, mais qui ne sont pas quand même gigantesques, qui restent en rapport avec les tailles des laboratoires actuels. Et pour conclure, mon dernier transparent, je vous présente ici la couverture du journal Nuclear Physics News, qui est un est-ce qu'on peut faire un zoom peut-être là-dessus pour avoir l'ensemble du... Non. Ah non, dans l'autre sens. C'est moyen de... Il n'y a pas moyen d'en voir plus. Bon, on va s'arrêter là. Disons que ce journal est édité par une association qui s'appelle NUPEC, qui donc publie un journal essentiellement à destination de la communauté, mais de temps en temps, il y a des articles qui sont destinés au grand public. Ce journal est d'ailleurs en diffusion relativement libre. Et c'est-à-dire, en fait, il faut s'inscrire auprès de NUPEC pour l'avoir. Et à un moment donné, vous voyez, par exemple, pour indiquer que 100 ans après la découverte de la radioactivité, où se trouvaient les nouveaux enjeux de la physique du noyau, eh bien, le point qui avait été repris, un peu comme aux États-Unis dans leur plan stratégique, était que la recherche qui devait être conduite était la recherche de l'exploration de ce qu'ils avaient appelé ici une terra incognita. Ils avaient fait une association avec la découverte des zones l'exploration des zones géographiques au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors le point essentiel, c'est que je crois qu'actuellement, la situation est telle que les ingénieurs et les physiciens de physique nucléaire sont en mesure de construire des appareillages qui leur permettront d'explorer l'ensemble de cette région, disons, sur une période d'une dizaine ou une quinzaine d'années, et grâce à ça, d'arriver à une connaissance relativement complète de l'interaction forte dans le domaine du noyau, et aussi de bien maîtriser l'ensemble des processus d'interaction nucléaire qui peuvent nous permettre, qui sont à la base de la compréhension des processus astrophysiques et donc d'une explication de l'univers qui nous entoure. Merci, je vous remercie.
Pour tous les détails que vous avez donnés. Pourriez-vous faire brosser un petit tableau sur les différents accélérateurs que nous avons, celui de Genève, qui je crois est un petit peu déjà, d'après ce que j'ai compris, un peu dépassé, et celui qui devait être construit en France et qui a été refoulé vers l'Angleterre, qui est je crois revenu. Et un peu un tableau général de tous les accélérateurs dans le monde pour ce genre de travail, grosso modo, évidemment. Voilà, merci bien.
Alors, Le point, c'est que les accélérateurs peuvent servir à faire de nombreuses choses, de la physique nucléaire et d'autres études. Alors, je vais, pour le cas du deuxième accélérateur dont vous avez parlé, c'était le projet Soleil, c'est toujours le projet Soleil, et le projet anglais s'appelle Diamond. Il s'agit d'un accélérateur qui n'est pas destiné à de la physique nucléaire, qui est destiné à fabriquer du rayonnement synchrotron. C'est-à-dire, en fait, on utilise le fait que quand les particules tournent, quand on fait tourner des particules en rond, eh bien, le fait de les tourner, de les dévier, fait qu'elles émettent du rayonnement. Et donc, en fait, on s'en sert plutôt pour fabriquer, en gros, de la lumière et des rayons X durs qui vont servir à l'étude de la matière condensée et des matériaux biologiques. Donc, le Soleil n'est pas un projet de physique nucléaire, et de même que Diamond. Ce sont des projets qui relèvent de la matière condensée, de la biologie. Alors, ce qui va leur arriver, je crois que, comme ce sont des grandes installations, à un moment donné, ces problèmes deviennent essentiellement des problèmes de nature politique. C'est-à-dire, il y a un moment où les scientifiques ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils ont indiqué quel type d'installation leur conviendrait, et à un moment donné, il faut prendre la décision. Et quand je dis politique, ça peut être de la politique scientifique, bien sûr. Et donc, ce qui va advenir du projet Soleil, vous voyez bien que ça me dépasse très largement, et je dirais qu'en plus, je ne l'ai pas suivi directement, puisque je ne suis pas impliqué. Alors, en ce qui concerne le CERN, le CERN, donc à Genève, dispose, je ne crois pas que ça soit une machine dépassée, enfin, je ne sais pas ce que vous en a dit le présentateur d'hier, mais je doute qu'il ait dit ça, parce qu'en fait, c'est une machine qui va se retrouver en 2005 à la pointe, mais à la pointe, elle aussi, dans le domaine de la physique des particules. La machine du CERN à laquelle j'ai fait référence, c'est en fait un tout petit élément de la grande machine qui va se mettre en place. La grande machine a été construite pour les physiciens des particules, mais les physiciens nucléaires se sont rendus compte que, après tout, il y avait un tout petit élément au début qu'on pouvait utiliser, et en faisant dévier une partie du faisceau qui va servir à la physique des particules, et en l'envoyant dans des zones, ils pouvaient faire de la physique extrêmement intéressante. Et donc, en gros, si vous voulez, toute machine commence par ce qu'on appelle un booster, un lanceur. Et puis au CERN, vous avez un booster qui va être suivi par tout un ensemble de faisceaux de machines qui va finalement aller dans le grand anneau qui se trouve sur le Jura, où les physiciens du particule vont travailler. Donc il y a un anneau de 27 km de diamètre qui se trouve sous le Jura et qui va servir aux physiciens des particules. Mais les physiciens nucléaires, eux, vont juste utiliser le booster. Ils demandent à ce que la moitié du faisceau ou un tiers du faisceau qui sort du booster leur soit dédié, et avec ça, ils peuvent faire de la très bonne physique. Donc en pratique, je dirais, l'accélérateur du CERN est certainement, en l'an 2005, sera certainement pour la physique des particules un accélérateur de pointe. Et il s'avère qu'il peut nous servir à nous, physiciens nucléaires. Alors maintenant, la situation des autres accélérateurs dans le monde, eh bien, j'ai essayé de vous montrer les projets. Vous voyez, aux États-Unis, en ce qui concerne la physique nucléaire, il y a une dynamique qui s'est mise en place, puisque déjà un des projets a été financé à Michigan State. Un autre sera mis en place certainement par le département de l'énergie aux États-Unis. Le Japon est parti. En Europe, la situation, c'est que l'Allemagne a lancé deux projets majeurs. Je crois que l'Allemagne est peut-être le seul pays européen qui peut se permettre de fonctionner encore aujourd'hui à une échelle nationale. Et puis l'ensemble de tous les autres organismes essayent de bâtir ensemble, de définir ensemble une machine pour que tout le monde puisse travailler autour de la même machine, et on ne sait pas où cette machine sera, on ne sait pas si elle sera faite, et on ne sait pas où elle sera placée. Voilà là, un peu la situation pour ce qui concerne les accélérateurs.
Merci. Oui, je m'excuse de poser une question un peu technique, mais qui m'intéresse. Vous avez parlé des supraconducteurs haute température à base de mercure. Et si, le dessin a passé un peu rapidement, mais si j'ai bien compris, il y a une contamination des plans de mercure par des atomes de barium, quelque chose comme ça.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, justement, c'est tout l'intérêt des méthodes utilisant des traceurs radioactifs. C'est-à-dire il semble que la manière de piloter le comportement de ces de dépendre beaucoup de ce qui se passe dans ces plans du cristal. Et donc, une des façons de comprendre, c'est de placer dans ce plan-là, non pas, bien sûr, ultérieurement, quand on aura compris, on y mettra des atomes stables, mais actuellement, pour comprendre la relation entre la présence d'un tel atome et tel effet observé dans la supraconductivité, on a besoin d'avoir une connaissance très précise de ce qui se passe dans ces plans, et donc la technique consiste à y placer des atomes instables, radioactifs, donc qu'on étudie.
Les atomes de barium ne se placent pas là, si vous voulez.
Ah oui, bien sûr.
Mais si je comprends bien, d'après votre dessin, il y aurait une contamination de ces plans-là.
Attendez,
si...
les bariums sont ici.
Voilà.
Ils sont
les
là.
Bariums, oui.
Non,
mais qu'est-ce que c'est que cet atome bleu-là, le gros atome bleu dans les plans de Vertu ?
C'est des impuretés. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? En fait, je pourrais vous le retrouver, oui. Mais c'est une impureté que l'on peut placer et en fonction de ça, on étudie le
d'accord.
comportement.
D'accord.
Bon, il faudrait que j'aille retrouver l'article,
oui.
si vous voulez.
D'accord.
Mais vous rendez compte, mon but était plutôt de montrer comment les noyaux instables, radioactifs, peuvent avoir une importance dans le domaine de la compréhension de la matière condensée.
D'accord. Juste une petite rectification dans ce que vous disiez, de tout à fait alors minuscule. Les îles Borromée, ce n'est pas dans le lac de Garde, mais sur le lac Majeur.
Voilà. Je me suis trompé de 100 km à l'ouest.
Monsieur, allez-y.
Merci, s'il vous plaît, monsieur, je suis là. Pour me permettre de vous poser la question, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous remettiez la diapo concernant les puits et le système d'échelles sur lesquelles se forme, l'on place les... Merci. Alors, par nécessité, ce que vous présentez, c'est évidemment un tableau à deux dimensions. Mais dans la réalité, les effets se passent à trois dimensions. Le puits a un volume, et ce que vous présentez sous forme d'échelle, en quelque sorte, on peut s'imaginer, je peux m'imaginer qu'il y a des plans différents. Donc, quand vous ajoutez, par exemple, du côté des protons, deux protons sur un pseudo-barreau, par exemple, en fait, ne peut-il pas se faire que ces deux protons ou quatre protons ou six protons supplémentaires se placent en fait à la même distance du fond du puits, mais sur un plan différent?
Ah.
Est-ce que ce n'est pas cela?
Bon, votre remarque montre que toute transposition, tout essai de transposition a ses limites. En fait, ce que j'avais essayé de montrer ici par ce système, et les barreaux d'échelle étaient supposés le schématiser, c'était que le noyau était un système quantique. Quantique, ça veut dire essentiellement discret, il n'existe pas de continuité. Et les barreaux d'échelle représentent simplement une échelle en énergie. Donc, si vous voulez, la dimension énergétique est dans cette direction. Et le fait qu'il y ait des barreaux veut dire que toutes les énergies ne sont pas permises et que les protons ne peuvent exister que sur des couches. L'équivalent des couches atomiques existe aussi dans les noyaux et ne peuvent se placer qu'à des énergies bien spécifiques. Donc, en fait, il ne faut pas imaginer une autre dimension spatiale. En particulier, il ne faut pas, même si... il faut imaginer que tout ça est invariant par rotation, mais ce qui compte, c'est que sur un niveau donné, à une hauteur donnée, vous ne pouvez mettre que deux particules. C'est un des principes de la mécanique quantique. Donc en fait, ce qu'il faut représenter ici, c'est vraiment une dimension énergétique et la quantification est symbolisée par les barreaux qui vous disent vous pouvez vous mettre là et vous ne pouvez pas vous mettre entre deux barreaux, ça n'existe pas. Voilà.
Oui, si vous voulez bien, on va rester dans les puits. Il y a quelque chose, mais je ne suis pas du tout calé sur le problème, quelque chose m'a surpris dans votre exposé, sans doute ai-je très mal compris, c'est lorsque, pour revenir à un certain niveau de stabilité, il y a une puce du puits des neutrons, par exemple, qui saute dans le puits des protons. Est-ce qu'à ce moment-là, le neutron devient proton, comme ils ne sont pas formés des mêmes quarks? Est-ce qu'il y a un quark qui change de nature, qui change de... capacité d'électricité?
C'est exactement. Alors, le processus qui se passe, je n'ai rien pour écrire, est un processus qui effectivement relève de ce que vous dites, c'est-à-dire un quark d'un changé de nature. Et est-ce que je peux juste avoir un morceau de tableau ? Bon. Hop ! Il faudra peut-être que je descende. Voilà. Et en fait, la réaction qui va se passer, par exemple, dans le cadre de la désintégration bêta, celle que nous, enfin la plus connue, donc des fois dite bêta moins, c'est que c'est donc celle qui correspondrait à la partie inférieure. Un neutron devient un proton. C'est le neutron devient un proton plus. Alors, il faut faire partir le proton étant chargé. Donc, il y a un électron qui sort, donc moins. Et puis, en plus, il y a une particule dont vous a peut-être parlé le conférencier d'hier, et en tout cas dont vous parlent certainement les gens qui vous parlent de processus d'astrophysique, qui sont un neutrino, et en fait, dans ce cas particulier, il nous faut un antineutrino électronique. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est réellement que, ici, vous avez trois quarks, et il y en a effectivement un qui va changer de nature à l'intérieur du paquet de trois, ici. Alors, ici, vous aurez, je pense que hier on vous a indiqué ça, et ici vous avez des U. Donc vous voyez, il a fallu qu'un des quarks D devienne un U. Et donc, alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau le conférencier d'hier est allé, mais essentiellement un des quarks se transforme, un des quarks D va se transformer en un quark U, et vous allez voir sortir un électron, et puis vous n'allez pas la voir sortir parce que c'est une particule sans masse et sans charge, mais il y a un neutrino qui s'en va, et ces neutrinos sont des particules extrêmement élusives, mais qui finalement se trouvent être extrêmement importantes dans l'univers. C'est des particules qui nous traversent en permanence, qui traversent tout, d'ailleurs typiquement un neutrino arrivant du fond de l'univers va en général traverser toute la Terre sans interagir avec rien du tout, tellement il est peu interactif. Mais vous avez effectivement le processus que vous avez décrit, c'est-à-dire un changement de quark.
Monsieur ?
Oui.
Pardon. Ma question, c'est une question qui est relative à l'espoir du futur. Parce qu'actuellement, nous parlons beaucoup de déchets radioactifs qui ne sont autres que des noyaux radioactifs. Est-ce qu'il y a un espoir, un jour, qu'on puisse transformer ces noyaux radioactifs en noyaux stables, à période nulle ou très courte ? Merci.
Bon, je vais répondre sur ce point, mais je voudrais d'entrée vous dire, peut-être par une boutade, parce que c'est une boutade qu'il faut prendre telle quelle, parce que le problème que vous avez évoqué est un problème sérieux, mais je dirais que les physiciens nucléaires qui s'intéressent aux noyaux exotiques seraient heureux s'ils avaient le problème, si les caractéristiques des noyaux qu'ils font étaient celles des déchets radioactifs, puisque vous savez que le problème essentiel des déchets radioactifs, c'est qu'ils vivent très longtemps. Et malheureusement, si j'ose dire, le problème auquel nous sommes confrontés pour étudier ce problème de physique fondamentale, c'est que les noyaux que nous fabriquons vivent très peu de temps, la milliseconde, moins que ça des fois, et il va falloir faire toute la physique dans des temps très courts. Alors donc, d'une certaine manière, la problématique que j'ai décrite dans mon exposé n'est pas celle des déchets radioactifs. Alors maintenant, pour en revenir à votre question, je veux vous dire que ce n'est pas parce qu'ici on fait de la physique fondamentale que les travaux associés à cette physique ne peuvent pas avoir d'importance dans le domaine des déchets radioactifs. Et en particulier, par exemple, je vous ai présenté ce transparent qui vous présentait un accélérateur intense, puisque cet accélérateur est actuellement capable de fabriquer des faisceaux de protons, enfin va être capable de fabriquer des faisceaux de protons de 100 milliampères, ce qui représente un exploit, enfin une augmentation de 10 puissance, d'un facteur 100 et presque 500 par rapport aux meilleures machines existantes. Et en fait, ce type de machine peut tout à fait servir à fabriquer des noyaux exotiques, mais il peut tout à fait servir aussi à faire ce qu'on appelle des études de transmutation, Et en particulier, il y a actuellement des propositions qui ont été faites d'étudier des réacteurs innovants qui permettraient d'incinérer l'ensemble des déchets à haute activité produits dans nos réacteurs. Et pour le faire, il faut le faire dans des réacteurs qui ne soient des réacteurs qui sont nucléaires, mais qui ne soient pas critiques comme les réacteurs actuels. C'est-à-dire, ce sont des réacteurs qui ont disons, un réacteur critique est un réacteur qui fonctionne essentiellement toujours à la limite de la divergence, c'est-à-dire soit d'un côté il s'éteint, soit de l'autre côté il explose, et donc le but est de le maintenir de façon constante. Les réacteurs que l'on propose pour la transmutation seront des réacteurs qui seront sous-critiques, c'est-à-dire que dès que quelque chose arrivera, ils s'éteindront, mais ces réacteurs doivent être alimentés par une source d'énergie externe, c'est elle qui fournit les neutrons supplémentaires pour assurer la transmutation, et ce que je voulais dire, c'est que ces travaux qui sont conduits pour de la physique fondamentale sont des travaux qui peuvent trouver une application dans le domaine de la transmutation. Et si vous allez voir, par exemple, le document que produit le ministère de la Recherche sur les recherches qui sont conduites dans le domaine de ce qu'on appelle l'aval du cycle, en gros les déchets nucléaires, vous y trouverez un chapitre consacré à des solutions innovantes destinées à la transmutation des déchets.
Oui, dans le domaine de l'énergie nucléaire, comment s'explique que quand on casse des noyaux, ils fournissent de l'énergie, quand on casse des noyaux lourds, mais quand on fusionne des noyaux légers, on fournisse aussi de l'énergie?
Bon, je crois que je vais peut-être essayer de vous trouver un transparent qui n'est peut-être pas... Alors, je crois que le point essentiel... C'est ça, hein, on commence par E égale MC2, une formule que tout le monde connaît, et le point essentiel, c'est cette courbe qui est ici, et qui vous donne, voilà, qui vous donne, alors en fonction, alors évidemment, on n'y voit rien du tout, je veux dire, la focalisation n'est pas terrible, ah non, il faudrait, ah ben, le bas, on va mettre le bas, est-ce qu'on peut arriver à focaliser, et puis je vais mettre ma montre. Juste la courbe du bas. Alors, vous voyez, le point essentiel, c'est que vous avez ici, en gros, la masse des noyaux, et puis en haut, une courbe en énergie. Et le point essentiel, c'est que cette courbe en énergie, vous voyez, elle part de 0, de 1, de l'hydrogène, elle monte, elle atteint un maximum, ils l'ont mis, je ne sais pas pourquoi, au noyau de krypton, en général, on met plutôt au fer, où elle atteint un maximum, et puis, vous voyez, elle se met à redescendre. Et ça représente l'énergie de liaison d'un noyau en fonction de sa masse. Et vous voyez que le point, c'est que chaque fois que vous allez vouloir utiliser la relation E égale MC2, vous allez essayer de le faire, si vous voulez gagner de l'énergie, en prenant un système qui est en bas et en se débrouillant pour qu'il arrive au point le plus haut. Et alors vous avez deux manières d'utiliser cette courbe. L'une d'entre elles, qui est celle de la fission, ce qui consiste à partir de l'uranium et à dire « je le casse en deux ». Et si je le casse en deux, eh bien, je vais avoir essentiellement deux kryptons, en gros. Hein, vous voyez, les masses correspondent à peu près, 250. Je divise par deux et j'ai 100 et j'ai 125. Et donc, je vais gagner la différence d'énergie que vous voyez ici et qui est mesurée en millions d'électronvolts. On peut venir là-dessus. C'est des joules mesurées dans une autre échelle. Et puis, on va gagner la différence entre le krypton et l'uranium. Donc, on va gagner cette différence ici. Pardon, c'est vrai qu'on peut pointer sur ce truc. Donc, on va gagner cette différence-là. Dans le cadre de la fusion, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir de l'hydrogène et d'aller à ce pic d'hélium qui est ici. Et donc, l'énergie qu'on va gagner est celle-ci. Donc dans les deux cas, il s'agit de monter la courbe. Et c'est parce que cette courbe se trouve avoir en gros un maximum au milieu qu'il est possible de fabriquer de l'énergie aussi bien en allant dans ce sens qu'en allant dans ce sens. Voilà. Et par exemple, toutes les étoiles dans leur processus de fabrication, quand les étoiles se fabriquent de façon lente, eh bien, à chaque tour, elles montent comme ça graduellement et elles terminent leur vie. Enfin, une étoile comme le Soleil va terminer sa vie quelque part par là, puisque la gravitation ne sera pas suffisante pour allumer les réactions nucléaires. Mais grosso modo, le Soleil actuellement est en train de fonctionner sur ce cycle, le cycle de l'hydrogène qui se brûle en hélium, et nos centrales, elles, actuellement, les centrales d'EDF, fonctionnent sur ce site, et jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de construire de système à fusion. Alors en gros, l'image qui est reportée, toujours en pensant à E égale MC2, c'est qu'un noyau lourd, est plus lourd que les deux morceaux, que ces deux morceaux, et si vous pensez à la fusion, ben c'est l'inverse, c'est-à-dire le noyau d'hélium, les deux noyaux, par exemple, vous prenez deux noyaux légers ici, ici c'est du tritium et du deutérium, je ne sais pas pourquoi ici ils en ont quatre, parce que la vraie réaction c'est celle-ci, et ces deux noyaux légers sont plus lourds que le noyau qui est obtenu par fusion. Donc dans les deux cas, il y a moyen de gagner de l'énergie en utilisant la relation E égale MC2.
Merci.